don.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
L'émission de ce soir est consacrée au film de Renaud Victor, intitulé « Et tu m'entends ». Renaud Victor, souviens-toi, Pierre Donadieu, c'était tout à fait au début du cinéma des cinéastes. D'ailleurs, nous n'avions pas pu mettre la main sur lui. À l'époque, je me rappelle avoir cherché son numéro de téléphone un peu partout pour qu'on puisse parler de ce gamin-là avec lui au moment de sa sortie.
Il y a 4 ans.
C'était 75, non ?
76.
Oui, voilà. Bon, il est là.
Il est là.
Renaud Victor est là cette fois. Donc, je me souviens qu'on avait parlé ensemble,
oui,
toi et moi, Pierre Donadieu, de ce gamin-là que nous estimions beaucoup. Bah, depuis, le temps a passé. Il est passé au Ciné-Club. Il est passé au Ciné-Club 15 jours. Et je crois qu'il a été assez bien reçu d'après les échos qui me sont parvenus. Et voilà le second film de Renaud Victor. Et tu m'entends, qui est, j'allais dire, sur les écrans. Il n'y a plus qu'un écran pour ce film dans Paris, qui est l'écran du cinéma Le Marais. Bien, alors, moi, ce qui m'intéresse, Renaud Victor, c'est, bon, les gens ont en tête ce gamin-là, pour l'avoir vu au Ciné-Club. Ils peuvent voir « Et tu m'entends ?» Et moi, personnellement, j'ai assez envie de voir comment s'opère ta trajectoire personnelle. Alors, je sais que tu as consacré 3 ans de ta vie à ce gamin-là, et puis ensuite 3 ans de ta vie à « Et tu m'entends ?», ce qui fait 6 ans. Alors la première question, Renaud Victor, c'est vraiment, sans se connaître très bien, mais il se trouve qu'on se tutoie, qu'as-tu fait de ces 6 ans ?
De ces 6 ans, j'ai fait 2 films.
Non, mais justement, je t'arrête tout de suite. J'ai pas l'impression que ce soit la réponse complète. Est-ce que... J'ai l'impression que l'expérience de ces 6 ans a été plus riche pour toi encore que les 2 films eux-mêmes, enfin...
Oui, les 2 films, c'est le résultat de quelque chose qu'on a... Les 2 films, c'est comme la mémoire, c'est comme les photos de souvenirs des vacances, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire raconter l'aventure extraordinaire qu'on vit pendant ces 3 ans. Le film n'est que le souvenir de cette aventure, et donc il est très en dehors des choses que l'on traverse. Pour moi, le premier, c'était...
Ce gamin-là.
C'était ce gamin-là, et c'était vraiment la rencontre avec un petit groupe de gens. Et aussi, par le biais du cinéma, se poser toutes les questions nécessaires à comment filmer, pourquoi filmer. Et il y avait une matière très très riche. Et puis en même temps, il y avait un personnage qui, moi, me bouleversait, qui était Jean-Marie. Et donc Jean-Marie, en fait, m'a appris à filmer. Il m'a forcé à filmer autrement que ce que j'aurais pu filmer si j'avais été filmé... tout autre chose.
Reprenons avant la rencontre de Deligny et de Jean-Marie. Est-ce que tu as, au départ, une vocation de cinéaste ?
Franchement, je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas faire de misérabilisme. Je pense que dans Et tu m'entends, j'en ai surtout pas fait. Et en même temps, on ne peut jamais nier l'endroit d'où on vient. À partir du moment où vous êtes à 15 ans au certificat d'études et que vous passez en centre d'apprentissage, il n'y a évidemment pas beaucoup de champs devant vous. Donc l'idée du cinéma, elle n'est pas vraiment présente. L'idée de toute autre chose d'ailleurs non plus. Si ce n'est qu'à un moment, vous pouvez faire des rencontres. Et ces rencontres vous amènent à faire tout autre chose que ce que vous pensiez pouvoir faire. C'est-à-dire qu'elles sont comme des révélateurs. Ma rencontre avec Deligny est un révélateur. Mais il est bien évident qu'il y avait ailleurs, avant, un autre révélateur, et c'est vrai qu'il a été pour moi mes 68. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez mourir, et que surgit quelque chose comme un éclatement, et que vous avez l'impression que non seulement vous, peut-être vous pouvez ne pas mourir, mais qu'en plus il y a moyen de faire tout autre chose, c'est-à-dire de sortir de ce lieu que moi je considère comme horrible aujourd'hui, qui est le lieu de l'usine, qui est le lieu du travail, qui est le lieu des horaires, qui est ce monde concentrationnaire, ce monde complètement bétonné. Et je crois que j'ai eu certainement énormément d'envie, y compris comme certains jeunes, puisque à 15 ans, j'étais comme les autres chanteurs de rock, puisque il y a 15 ans, c'est-à-dire en 65. En 65, ben oui, je chantais du rock, déjà. Mais Johnny Hallyday, Les Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages, le chantaient déjà dès les années 60, 61. Et nous, dans les cités, notre envie, c'était d'être autre chose que ce que nous étions. Et être autre chose que ce que nous étions, c'était se faire voir, se faire reconnaître, se faire entendre, d'une manière ou d'une autre. Si effectivement on trimbalait sur les bords de Marne et que éventuellement on faisait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des petits coups, je veux dire, on les faisait pas par méchanceté, on les faisait parce qu'il fallait exister, parce qu'il fallait prouver à l'autre qu'on n'était pas tout à fait comme lui, qu'on était différent, il fallait se mesurer. Il y a une espèce de loi comme ça absolument absurde. Mais de la même manière qu'on était capable d'aller au boulot tous les matins à 6 heures et que ça ne nous empêchait pas le dimanche matin d'aller faire de l'aviron et donc de se lever encore à 6 heures. C'est-à-dire, il y a une folie comme ça qui s'opère. Et donc, il y a une espèce de folie qui est celle simplement d'exister violemment. Mais parce que c'est le seul moyen de se faire reconnaître, de se faire entendre. Bien, alors j'imagine que j'ai peut-être eu une envie très particulière à faire autre chose que de me laisser aller, je ne sais pas. Ça peut venir de plein d'endroits. C'est vrai que j'ai passé 3 ans de ma vie, de 11 à 14 ans en Afrique, comme seul Européen, puisque mon père adoptif était militaire de carrière et qu'il m'a emmené là-bas pour la première fois et que lui lui-même eurasien, c'est-à-dire même pas français au sens où sa mère est saïgonaise, je veux dire, lui-même supportait mal le milieu européen. Ce qui fait qu'il était le seul militaire français au Dahomey, qui est maintenant le Bénin, il était le seul à être dans un quartier africain. Et c'est vrai que j'ai vécu 3 ans de ma vie, de 11 à 14 ans, et c'est pas rien, complètement comme un Africain. Et c'est-à-dire que on peut même pas dire intégré, je faisais partie des petits villages, j'allais à l'école. À 11-14 ans, je crois qu'on ne marque pas la différence. On est avec parce que nos rapports ne sont pas des rapports de jugement, des rapports d'adultes, c'est des rapports davantage de connivence. Et donc je faisais partie complètement intégrante. Et au point même, c'est qu'il marquait la différence, puisqu'il m'appelait Yovo Yovo, c'est-à-dire blanc.
C'est fantastique.
Mais c'était ça qui était important, justement. C'est qu'il marque la différence pour mieux m'intégrer. Et donc, vous imaginez bien que, et peut-être qu'il faudrait que je dise encore autre chose, c'est que peut-être ce qui a fait que j'ai voulu faire du cinéma, ce n'est peut-être pas ce que, pour les autres, ont été important. C'est-à-dire que je crois que j'ai voulu faire du cinéma comme on veut devenir Alain Delon ou Johnny Hallyday, ni plus ni moins. Sauf d'autres choses se sont passées qui ont renversé cette vapeur. Ces autres choses, c'est mai 68, c'est la première chose. La deuxième, c'est Fernand Deligny. Et le troisième élément qui a permis, le deuxième, j'oserais dire, c'est que, évidemment, j'ai vécu 20 ans de ma vie avec un frère qui est mutique. Donc il est évident que la rencontre avec Deligny, que l'objet de la différence, était quelque chose chez moi de marquant. L'absence du père, un frère mutique, une envie d'être autre chose que ce que je suis, c'est-à-dire un misérable, c'est-à-dire un âne batté, comme disaient mes oncles, ou un imbécile, comme pouvaient dire les tantes, c'est-à-dire un milieu social que je déteste profondément. Et en même temps, c'est peut-être parce que je le déteste profondément qu'aujourd'hui j'essaye de saisir point par point comment ça se fait que ces gens qui ont une humanité finalement énorme soient aussi stupides. Et je pense que ils ne sont pas innocents, mais ils ne sont pas coupables non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses bien plus fortes qui font que les gens sont des imbéciles. C'est-à-dire qu'un imbécile, il n'est jamais imbécile tout seul. Il y a toujours des gens qui font en sorte pour qu'il le soit un petit peu davantage. Et je crois que Deligny m'a appris à faire du cinéma. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait de cinéma avant, si ce n'est que j'avais bien sûr passé 2 ans à Vincennes de 70-71, où effectivement j'ai travaillé avec Madame Repars. J'ai essayé de travailler avec le groupe Dika Vertov. Il est évident que le langage qu'ils avaient à ce moment-là à l'université de Vincennes était tout à fait indiqué pour que je ne puisse pas y apprendre quoi que ce soit.
Il faut ajouter, c'était Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, le groupe
Gazartoff. Oui, mais enfin, il y avait Fargy Leblanc, il y avait tous ces gens-là. Il y avait aussi un monsieur qui était un monsieur qui parlait du cinéma ethnologique, qui s'appelle certainement encore aujourd'hui Monsieur Espagne. Et je me souviendrai toujours des empoignades que j'ai eues avec Serge Le Perron à cette époque, où Monsieur Serge Le Perron, et encore qu'aujourd'hui, je ne lui en veuille pas parce que je le connais un petit peu et que c'est un monsieur qui a fait un beau travail par la suite, en particulier sur le film sur la Palestine. Mais c'est un monsieur qui, à l'époque, quand même, c'était en 70, nous interdisait de prendre une caméra à partir du moment où il ne s'agissait pas d'apprendre à faire tourner une caméra. Il fallait d'abord savoir que la caméra était un outil bourgeois. Alors, bien sûr, ce ne sont que des anecdotes. Mais en même temps, imaginez un mec qui tombe dans une université où on s'aperçoit que les ouvriers peuvent y aller. On était à peu près une trentaine de pourcents, ce sont les statistiques. Et que votre envie à vous, c'était de toucher une caméra, de la prendre à la bagnée. Et quand vous répondez ça, il y avait des hurlements nécessaires. Alors ça, c'est un petit peu comme ça. Et puis avec Madame Repas, par contre, qui était considérée à Vincennes comme une UV extrêmement traditionnelle, puisqu'il s'agissait de... Il s'agissait du récit, il s'agissait des choses comme ça. Je me souviens, je crois que le titre de l'IV, c'était « L'histoire narrative au cinéma ». Et il y avait donc Jean-Michel Marie, qui a écrit aujourd'hui. Il y avait donc Repars. J'avais été avec eux et très content soutenir la thèse de Christian Metz, qui était elle-même supervisée par Roland Barthes. Et j'avais été effectivement très, très impressionné. Et je crois que ça a été un point assez important pour moi. Finalement, c'est une année et demie... une année et demie, c'est-à-dire que je n'ai pas fini la deuxième année à Vincennes, puisque j'ai rencontré Deligny à ce moment-là.
Renaud Victor, comment s'est faite la rencontre avec Deligny ?
Bien, écoutez, c'est simple. Je sentais qu'à Vincennes, je ne pouvais plus rien. Il y avait encore bien plus là d'interdit, d'une certaine manière, qu'ailleurs. Et à ce moment-là, je me suis dit que... Et j'ai vu quand même des films, Andrew Cleaver et plein d'autres choses comme ça, qui m'ont bouleversé, passionné... Il faut dire aussi que j'avais été complètement bouleversé en 67 en sortant du service militaire, au moment même là où j'avais décidé de ne plus aller travailler, et que j'irais apprendre, j'irais étudier, que j'étais donc rentré en capacité de droit, parce que c'est le seul moyen effectivement pour moi de commencer un petit peu à apprendre. Et puis c'est comme ça que j'ai été à la Cinémathèque, que j'ai fait une découverte absolument extraordinaire en 67, qui était quand même Los Olvidados de Buñuel, qui m'a complètement bouleversé et qui m'a, je crois... aider à comprendre que peut-être le cinéma pouvait être autre chose que simplement du spectaculaire, peut-être qu'il était quelque chose qui, finalement, pouvait permettre aux gens de penser un petit peu plus à ce que, finalement, ils vivaient, et qu'on sait que si on arrive un peu à penser, pointer ce qui fait notre vie, bon, ben, on ne se laisse pas couler, on ne se laisse pas entraîner comme ça, on a des moyens de réaction. Donc la rencontre avec Deligny, c'est que donc, petit à petit, j'avais acquis comme ça une envie de mieux savoir, de mieux comprendre. Toujours avec Madame Repars, toujours cette UV, cette fameuse UV traditionnelle. On s'était quand même payé une analyse extrêmement en détail du film de Wells qui était Citizen Kane. Et je vous garantis que quand vous voyez Citizen Kane de Wells sur une Moviala, c'était une espèce de grosse machine comme ça de montage 35, verticale, et pas du tout horizontale, et que vous voyez en marche avant, en marche arrière, que vous notez, que vous écoutez, que vous regardez, et qu'en même temps il y a quelqu'un à l'autre bout, qui reprend ces choses-là pour expliquer autre chose, eh bien, même si on n'est pas formé à un certain langage, ça vient très très vite, et il y a plein d'autres choses qui passent, et ce qui passe n'est pas forcément justement ce qui était les professeurs, j'oserais dire, voulaient dire. C'est qu'en fait, il passe autre chose que ce que dit la personne. Parce que la sensibilité de celui qui écoute est importante, et ça, je l'ai vérifié et mieux compris, évidemment, en rencontrant Deligny. Donc j'ai rencontré Deligny tout simplement en ayant vu un film qui s'appelait Le Moindre Geste, qui est un film extraordinaire, qui m'a purement et simplement bouleversé. Pas tellement, finalement, à savoir si j'ai compris le sens du film à ce moment-là, mais quelque chose d'énorme s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai retrouvé une sensation aussi colossale que quand j'avais vu Los Olvidados de Buñuel. Et à ce moment-là, je me suis dit... Faut que je rencontre ce mec, c'est pas possible, parce que s'il a pu faire un film comme ça en 3 ans, avec cette force extraordinaire, pourquoi moi je pourrais pas, puisque je veux, à ce moment-là c'était avril 72, puisque moi je veux faire aussi du cinéma, il n'y a pas de raison que lui puisse en faire comme ça et moi pas. C'est toujours cette manière qui vous conduit à faire autre chose. C'est pourquoi lui il peut et moi pas. Et des fois ça a son bon côté, et puis des fois ça a son mauvais. C'est que la jeunesse aujourd'hui, telle qu'elle est,
Elle dit, Johnny Hallyday est très riche, pourquoi pas moi? C'est donc aussi très dangereux. Bah pour moi, ça s'est joué plutôt bien, parce que j'ai rencontré des gens parfaitement équilibrés et extrêmement intéressants.
Et désintéressés.
Et désintéressés, évidemment. Et Deligny m'a accueilli avec beaucoup de chaleur m'a obligé à faire tout autre chose que, évidemment, ce que je pensais qu'il fallait faire, même en allant là-bas. C'est-à-dire qu'il a passé son temps sans arrêt à détruire toutes les idées, toutes faites, en fait. C'est-à-dire toutes ces idées idéologiques que j'avais, il les a progressivement, avec beaucoup de patience, poncées jusqu'au moment où, finalement, je devenais capable de faire des images qui correspondaient à ce qui se passait là-bas. D'où l'adéquation, finalement, entre le fait de filmer et la chose...
Oui, bon, alors quand on pense à ce gamin-là, quand on le voit, quand on le revoit, aujourd'hui, on est... Et puis surtout quand on a Etumenta en face, puisque si maintenant on a les deux l'un côte à côte, on est quand même absolument à la fois fasciné et apeuré par cette prodigieuse probité qui est la tienne, Renaud Victor. C'est-à-dire qu'on sent bien dans ce gamin-là comment, avec très très peu de choses en plus, tu pouvais faire pleurer la terre entière et comment tu t'y es refusé. Et comment, avec eux, tu m'entends, les choses pouvaient devenir beaucoup plus... Enfin, après tout, comme dans la Solidado, d'une certaine façon, beaucoup plus violente, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus politique au sens de la polémique, au sens de la guerre par les images et par les sons. Eh bien, non. Il y a un désir comme ça de... Alors là, tu viens de t'en expliquer à propos de Deligny, il y a un désir de... Assez contradictoire d'ailleurs à ce que tu apparais dans la vie. Hein. C'est-à-dire que dans la vie, tu es quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très convaincant, qui est très conteur, qui est très... On t'écoute là, moi depuis le début de cette émission, je t'écoute avec passion. Et puis quand je vois un de tes films, c'est un peu le contraire. Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de bascule par rapport à ton propre tempérament, qu'il y a une espèce de refus du facile, du refus de l'émotion, du refus du spectaculaire.
C'est vrai, il y a un refus du spectaculaire, mais parce que je pense que c'est autre chose que le spectaculaire qui est important de donner à voir. Si on parle de ce gamin-là, c'est vrai qu'il est marqué de manière très forte par le fait de l'initier, par sa présence, et par le fait qu'il soit là-bas, par le fait que les choses existent, préexistent à ma présence. Il s'agit de toute autre chose, pourrais-tu m'entendre. Il s'agit un petit peu de moi. Alors que dans ce gamin-là, bien sûr qu'il s'agit de moi, mais c'est quelque chose qui est entre moi et Jean-Marie. Alors que dans Et tu m'entends, il s'agit de manière plus immédiate de moi. Même si ce n'est pas moi qui joue, je veux dire.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas toi qui joue? Tu n'as pas envisagé de jouer dans le film?
Non, parce que cadrer est largement suffisant, je veux dire, et mettre en scène, organiser la production, organiser le travail quotidien de tournage est largement suffisant. Et puis parce que je pensais qu'il était intéressant, même s'il s'agissait finalement de moi, c'est-à-dire moi au sens qui essaye, comme un archéologue, de retrouver un petit peu ses propres traces, c'est qu'aujourd'hui, en 78 et 79, j'ai retrouvé des choses complètement intactes de ce que moi j'ai vécu en 60 et 65. Thierry n'est pas différent en 79 de ce que moi j'étais en 65. Et Jean-Pierre n'est pas différent.
Il s'agit des héros de Et tu m'entends.
C'est ça. Et Jean-Pierre n'est pas différent de ce que moi j'étais juste avant de faire une rupture définitive avec le monde du travail salarié. Donc, par rapport à cette envie de ne pas faire du spectaculaire, c'est que je pense simplement que la parole, c'est quelque chose qui est, au moment où on l'a dit, qui est à la fois envahissante, en même temps qui est séduisante. Le cinéma, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne doit pas être séduisant. C'est-à-dire qu'il doit... permettre tout le temps opérer une distance entre le spectateur et l'objet à regarder. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois le spectateur se confronte et en même temps, faut qu'il sache que c'est pas lui. C'est-à-dire que, enfin, pour ce film, j'entends, c'était... Enfin, si j'avais voulu être spectaculaire, je sais bien ce qu'il aurait fallu faire. D'abord, j'aurais pas fait « Tu m'entends ». j'aurais fait tout autre chose. Mais même dans l'étumentant, j'aurais pu aller sur des trucs complètement spectaculaires, tels que, par exemple, parler avec beaucoup plus de véhémence de la drogue, en parler justement, alors que l'étumentant n'en parle pas. C'est bien là la différence fondamentale. C'est que le film de Sauté parle de la drogue, mais il ne la montre pas. Moi, je n'en parle pas, je la montre. C'est ça aussi la différence. Et que je crois qu'à partir du moment où on parle des gens, qui sont des gens avec qui vous avez un lien, plus qu'un lien d'amitié, mais vous avez un lien comme un lien de tribu. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, on peut me le reprocher, je pense que beaucoup, même, et certains, me le reprochent violemment. Mais moi, j'y peux rien. Moi, quand je vois un ouvrier, ça me fait quelque chose. Il est de la même ethnie, il est de la même... notre même culture, son langage. C'est comme si d'un seul coup, vous promenez, je sais pas, moi, dans un pays étranger, puis d'un seul coup, vous rencontrez quelqu'un qui parle la langue que vous parlez. Bon, ben, c'est merveilleux, mais pour moi, c'est pareil. À chaque fois que je rencontre un mec comme ça, Thierry, Jean-Pierre et d'autres, ben moi, ça me bouleverse. Alors, comme ça me bouleverse, ben, je filme les choses qui me bouleversent. Et puis, il y a au fait que, aussi, j'avais envie de faire ce film, Jean-Pierre s'y prêtait, il venait juste de passer un moment très, très dur... Après 5 ans à l'hôpital, une chose assez intéressante aussi, je rencontre Charlie Boyadjian qui travaillait donc en usine, et je l'ai rencontré parce que je me suis déplacé à Romans pour un fait divers à la fois banal et en même temps très explicite sur ce que peuvent vivre les gens, c'est-à-dire une jeune fille de 17 ans qui s'est fait arrêter dans un monoprix, qui a volé une bouteille de pastis pour aller dans une petite boum. Les gendarmes ont même été très gentils. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment fait grand-chose. Ils ont juste appelé le père pour qu'il vienne rechercher sa fille. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quelle est l'histoire de cette famille et de cet enfant. Toujours est-il que cet enfant, le lendemain, s'est suicidé. Donc moi, je suis allé sur place pour savoir un petit peu. C'est la mort, en fait, qui m'a fait rencontrer Charlie Boyadjian. Mais Charlie Boyadjian était aussi en train de mourir à l'usine. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre lui et moi, je ne peux pas vous dire. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis on s'est petit à petit, puis c'est lui qui a commencé à faire l'enquête. Et d'ailleurs, de l'enquête, il a beaucoup travaillé sur les 3-8, avant même donc que je rencontre Jean-Pierre, qui est le héros du film. Et bien, ensuite, il a petit à petit quitté le travail. Et puis, depuis, il a écrit un très, très beau livre qui s'appelle La nuit des machines. Et donc, c'est...
Non, mais alors là, je crois que tu vas un peu trop vite, René.
Oui, Victor. Je sais pas, oui.
Non, mais bon, alors, on a été à ce gamin-là, bon, à la façon dont tu as réussi à le filmer, on est passé à Et tu m'entends, et alors, je voudrais savoir comment est venu le projet, parce que là, tu es déjà dans le travail. Je voudrais savoir, avant le travail, avant les rencontres, enfin.
On a parlé de la rencontre avec Deligny. Alors, parlons de la deuxième rencontre.
C'est ça.
La deuxième rencontre, pour moi, qui est extrêmement douloureuse, et qui, en même temps... extrêmement passionnante. C'est-à-dire que j'ai rencontré à Grenoble Jean-Luc Godard. Et aujourd'hui encore, malgré tout ce que j'ai pu partager avec lui, à la fois d'amour certainement et à la fois de violence, je reste persuadé que c'est certainement pour moi un des gens au cinéma qui permettent à des gens qui veulent faire du cinéma d'apprendre à en faire. Il fait des films qui permettent aux gens qui font du cinéma d'apprendre à en faire. Voilà la grande, grande, grande qualité de Jean-Luc Godard. Et ce mec, effectivement, à différentes reprises, et là encore, pour des raisons qui ne sont pas forcément celles qui sont annoncées dans le film, c'est-à-dire dites, mais certainement pour d'autres raisons, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a aussi complètement fasciné. Et certainement pour toute autre raison que peut-être ce que l'auteur lui-même a comme mode d'intention, ou je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, j'étais presque exaspéré quand je voyais les critiques des gens, les critiques tout simplement, ceux qui écrivent les articles sur les films de Jean-Luc Godard, parce que moi j'avais rien compris de ce qu'il disait. Et je n'avais rien compris des films, de ce que disaient les journalistes. Mais par contre, moi j'avais pigé autre chose.
En regardant les films.
En regardant les films. Et donc, j'ai rencontré Jean-Luc Godard, c'était en mars 1976, au moment où ce gamin-là passait à Grenoble, à la Nef. Et puis, on s'est revus. Et puis, un jour, il m'a envoyé un papier en me disant « Viens tel jour à Grenoble ». Et pendant près d'un an, on peut dire, il m'a logé, pour pas dire nourri, et aidé complètement à tenir le coup pendant un an, c'est-à-dire tout le temps de la préparation du projet et jusqu'au moment où l'avance sur recette avait été acquise. Donc il y a eu un an passé complètement à vouloir monter un film. À ce propos, d'ailleurs, Jean-Luc Godard s'explique très bien. Il dit que le problème des jeunes réalisateurs, c'est de monter leur film et de ne pas faire du cinéma. Ce en quoi il n'a pas tort. Mais peut-être qu'il y a plein de raisons qui font qu'on est obligé de monter un film. Et que ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas envie de faire du cinéma. Donc un an passé comme ça.
Mais un an passé comme ça, à quoi faire alors ?
Un an à s'installer à Grenoble. Commencer un petit peu à penser au sujet à traiter. Essayer de savoir comment j'allais pouvoir produire le film. Préparer un dossier.
Et l'enquête avait commencé déjà ?
Non, pas vraiment. J'avais simplement que le projet. J'avais pas fait d'enquête du tout. Jusqu'au moment où j'ai fait le dossier pour l'avance sur recette et jusqu'au moment où j'ai eu l'avance sur recette, une avance sur recette de 450 000 francs, je n'avais pas fait d'enquête. C'était simplement un projet écrit sur une certaine manière d'appréhender un certain type de propos.
Et le projet initial était un projet de documentaire ou un projet de fiction ?
Non, c'est un projet de reportage.
Quelle est la différence ?
La différence, c'est-à-dire que...
Avec le documentaire.
Le documentaire, c'est pour moi... D'abord, je ne dirais pas documentaire, je dirais document. Et pour moi, un film de fiction ou de reportage peut être un document. Après, je ne peux plus faire la limite entre la fiction et le reportage.
J'ai très bien répondu, non, c'est très bien.
Donc un an à monter une affaire et soutenu comme ça, d'une manière tout à fait désintéressée, je suppose, de Jean-Luc Godard, avec des choses qui sont passées entre lui et moi, qui ont été pour moi très, à la fois très chaleureuses et en même temps très violentes. Mais je reste de toute façon complètement sur le souvenir de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, je veux dire.
Le projet initial, si je comprends bien, c'était donc de faire ce même film pratiquement, mais en cinéma direct, c'est-à-dire de filmer vraiment les gens au travail, vraiment les gens chez eux, et pas du tout de mettre en scène, pas du tout de diriger, de donner aucune indication.
C'est ça.
Alors comment est-ce qu'on passe de cette volonté de cinéma direct à un cinéma qui maintenant, me semble-t-il, est du cinéma de fiction ?
Oui. C'est effectivement, il n'y a pas une image dans ce film de ce qu'on dit du film de reportage, c'est-à-dire où on filme les choses comme elles se présentent.
Alors comment est-ce que tu es passé de l'un à l'autre ?
C'est simple. C'est que dans une cité, il n'y a rien à voir.
Ton projet, c'était de filmer exactement ce que tu as filmé en fiction.
C'est ça. Le projet, c'était effectivement de filmer des gens dans une cité ouvrière. Sauf qu'il n'y a rien à voir. Il commence à y avoir quelque chose si on rentre chez les gens. Sauf qu'une cité, c'est une espèce de rassemblement de personnes avec des tensions. Et avec des ethnies différentes. Maghrébins, espagnols, tunisiens, juifs arabes, pour le quartier dans lequel j'avais été. À partir de ce moment-là, il est évident qu'à un moment donné, on lit des liens plus particuliers avec un tel ou un tel. Mais à partir de ce moment-là, il y en a qui sont mis à l'écart. Et les choses là deviennent très difficiles. Parce que d'abord, on vous dit, mais pourquoi vous venez filmer ici ? Il n'y a rien à voir. D'abord, si vous filmez ici, c'est nous qui vont décider de ce que vous devez filmer. Et puis, qu'est-ce que c'est l'autre, là, qui se prend pour une star, parce qu'on vient la filmer, alors on est capable de la mettre en quarantaine, éventuellement, c'est une manière de parler. Et si vous avez des amitiés particulières à un moment avec un juif arabe, mais c'était en 78, il tarde pas du tout le lendemain ou quelques jours après de voir les Juifs dehors. C'est-à-dire que vous, d'un seul coup, vous provoquez une situation absolument insensée. Au point même qu'à un moment, on vous dit, si vous tournez ici, on vous casse la caméra. Que finalement, je le respecte et je trouve que finalement, ils ont eu raison. C'est que je me suis aperçu que ce que j'avais pu faire avec Deligny était une chose et qu'il ne s'agissait pas de réitérer la même expérience. Parce que le monde dans lequel nous vivons, justement, est autre chose. Et c'est ça que j'ai compris d'un coup. C'est que le monde de Jean-Marie est vraiment un monde à lui. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui ne nous appartient plus. C'est C'est un monde où on est les esclaves complets du monde dans lequel nous vivons. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je rencontre des gens, qu'il fallait que je fasse le film que je voulais et le film qui serait le mien. Donc, je n'aurais de compte à rendre à personne. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu rencontrer des gens avec lesquels je me suis mis d'accord sur un certain mode de travail. Et il était acquis que c'était le film de Renaud Victor, auquel collaboraient, d'une manière qui a été d'ailleurs très passionnante, des gens volontaires de travailler sur ce film. Et c'est comme ça qu'on est passé doucement, finalement, à la fiction.
Mais il me semble qu'il n'y a pas
une fiction qui est complètement fondée sur une enquête, c'est ça.
Une fiction qui n'a que comme préliminaire une enquête sur les 3-8. Mais bien comme préliminaire, parce que quand on a commencé à tourner, je n'avais simplement que 5 pages et les gens que je voulais faire tourner et le lieu. J'avais décidé 2 appartements, j'avais une esquisse.
Mais quel est le rapport entre les gens et leur vraie vie et les rôles que tu leur fais jouer sur l'écran ?
Alors, pour ce qui est du groupe, il faut dire que ce groupe-là vient bien de l'enquête. Mais étonnamment...
Du groupe de rock'n'roll.
De rock'n'roll. Mais étonnamment, c'est eux qui n'en ont pas subi. C'est-à-dire que je les ai rencontrés sur un quartier, ils avaient simplement l'envie de faire de la musique, ils n'en avaient jamais fait, et que moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné, et je me suis dit, eh bien, si vous faisiez de la musique, puisque moi, je veux faire un film. Et à ce moment-là, puisque moi, je veux faire un film et que vous voulez faire de la musique, peut-être que c'est ça qu'on peut filmer. Et donc, il n'y a pas eu d'enquête. C'est simplement ma manière à moi, à un moment donné, de passer dans des endroits et de rencontrer des gens qui font que d'un seul coup, ça s'est passé comme ça avec eux et pas avec d'autres.
Tu les as mis en scène dans leur vie quotidienne, alors ?
Eh bien...
Tu leur as fait jouer leur vie ?
Non, pas tout à fait, quand même. C'est-à-dire que le film étant parti en janvier 78, non, même pas. Les premiers éléments de tournage, c'était en juillet 77. Toujours dans cette hypothèse du reportage, qui a donc dû être abandonné. Mais déjà, j'avais rencontré ce groupe de mecs qui voulaient faire de la musique, et déjà, on s'était débrouillé pour qu'ils commencent à trouver un local, à répéter, et commencent à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis le film en reportage s'est abandonné. J'ai cru que donc ça allait tomber de même pour eux. Mais eux sont accrochés à l'essentiel, c'est-à-dire faire de la musique. Donc sur ceux qui avaient démarré pour leur reportage, ce sont les seuls qui sont restés parce qu'ils étaient accrochés non pas finalement au film, mais parce que le film finalement permettait un peu de faire de la musique. C'est le film qui a permis de faire de la musique. Donc progressivement, ces gens-là ont une évolution. Et que c'est vrai que même si tout est tourné en fiction, c'est très très proche de leur réalité, de ce qu'ils ont vécu, y compris quand Thierry, à un moment donné, tombe un petit peu dans des moments difficiles et la drogue dure, qui l'a encore jamais spectaculaire et qui n'est simplement qu'une espèce de traversée. C'est-à-dire, à un moment donné, on traverse le désert, au bout, il y a la mer, avant peut-être il y a la mer. Donc, il a eu une traversée du désert et il a utilisé la drogue. C'est un élément de son itinéraire. Et il est évident que nous avons choisi ensemble de le donner à voir ou pas, et qu'il y a une adéquation totale, c'est-à-dire une volonté de sa part et de la mienne de le montrer ou pas. Jamais je n'ai montré quoi que ce soit que les gens n'auraient pas voulu que je montre. Jamais.
Et est-ce qu'il te semble tout à fait impensable, plutôt que de prendre des gens qui revivent à peu près leur vie, d'avoir toi écrit complètement le film et que ce soit des acteurs qui interprètent ? Est-ce que ça te semblait une option inimaginable ?
Non, mais je crois que ça, je vais pouvoir y répondre un tout petit peu après. Parce que Jean-Pierre Barrus,
qui joue le
rôle de l'ouvrier, il le joue le rôle de l'ouvrier. Parce qu'au moment où il est devant la caméra, ça fait déjà 6 mois qu'il ne l'est plus. Vous voyez, sa femme, c'est pas sa femme. Ses enfants, il n'y en a qu'une qui est son enfant. L'autre, c'est pas son enfant. Donc, s'il y a quelque chose de bien fabriqué dans ce film, c'est le couple. Mais parce que justement, on ne pouvait rien, en reportage ou à partir d'un réel, amener. C'est-à-dire que je ne pouvais pas. Autant je pouvais filmer, même en fiction, mais sur quelque chose qui était du réel de leur existence, à ces jeunes qui voulaient faire de la musique, et qu'en étant rigoureux comme ça, point par point, on pouvait noter une évolution des points, et qu'on pouvait, avec eux, amener à une mise en situation et interprétation de quelque chose qu'ils voulaient exprimer, fortement. Mais le couple, quel est le couple qui aurait accepté de jouer sa propre vie? Donc le couple, je l'ai inventé. Et le couple vient de l'enquête de Charlie Boyadjian, justement. C'est-à-dire que le film, là où il y a la fiction la plus totale, c'est celle qui vient de l'enquête. Cette fiction est née de l'enquête. Et c'est pourtant dans ce couple que je me suis inscrit d'une manière la plus forte au niveau du récit. Alors que là où il n'y avait pas eu d'enquête, qu'il n'y avait simplement eu qu'une rencontre, c'est là où le film, même en fiction, ne fait que filmer, donner à voir les choses qu'on peut repérer dans l'évolution de ces quelques personnages qui veulent faire de la musique.
Ça m'intéresse beaucoup. Alors personnellement, Renaud Victoire, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je pose la question, j'en sais rien, mais plus l'enquête est précise, plus la fiction devient possible. Alors.
C'est ça.
Si je prolonge un peu, c'est plus je connais une femme, mieux je la connais, c'est-à-dire mieux je la connais rigoureusement, plus, je prends l'exemple de gros, c'est le plus simple, hein. Plus je peux tracer son visage avec une très grande exactitude, et plus je suis dans la fiction, c'est-à-dire plus je suis dans l'amour, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que plus les choses sont précises, aiguës, et plus on risque de passer la barre, de passer la frontière mystérieuse qui fait qu'on est, dans que les choses ne sont pas seulement ce qu'elles sont. Quoi.
C'est ça, les choses ne sont pas ce qu'elles sont, mais... Je veux dire, les choses ne sont plus ce qu'elles sont dans la mesure où vous avez complètement induit pour vous-même la réalité des gens dont vous voulez raconter l'histoire. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre n'importe qui pour la raconter, éventuellement. Donc l'enquête faite par Charlie Boyadjian, sa femme est infirmière,
oui.
Lui-même était en 3-8, c'est l'enquête qu'il a faite et sa propre histoire à lui, sur laquelle je me suis appuyé, pour raconter à la fois quelque chose de lui que j'avais pu cerner à travers l'enquête et quelque chose de moi. Mais pourquoi ça? Simplement parce que j'avais une rencontre très forte entre Charlie et moi. Je veux dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et quand j'ai rencontré Jean-Pierre Barrus, parce que d'un seul coup je me disais, mais qui va jouer le rôle de l'ouvrier? J'ai rencontré Jean-Pierre Barrus et je suis tombé sur un truc absolument épatant. C'est que Jean-Pierre Barrus, qui lui venait de quitter l'usine, parce qu'il n'en pouvait plus et qu'il était en psychothérapie, connaissait parfaitement Charlie Boyadjian pour avoir milité dans les syndicats avec lui en usine. Et à ce moment-là, Jean-Pierre a accepté de me rencontrer. C'est-à-dire qu'il a accepté en tant qu'ouvrier de rencontrer quelqu'un qui fait du cinéma, simplement parce que j'étais le copain de Charlie Boyadjian et qu'il s'est dit que si Charlie il avait un copain comme ça, que peut-être on pouvait bien pouvoir le rencontrer. Et à ce moment-là, les choses sont établies. Et effectivement, Jean-Pierre a joué un rôle très, très, très important dans la construction du personnage. C'est pour ça, et donc je viens à la question, c'est que j'aurais pris Gérard Depardieu, pour dire comme ça le premier mot, le premier nom qui me vient à l'esprit. En aucune manière, Gérard Depardieu aurait pu jouer le rôle de l'ouvrier, pour la seule et unique raison, c'est que même s'il l'a été il y a longtemps, il ne l'est plus, et en aucune manière, il a son langage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec Gérard Depardieu, il aurait fallu que j'écrive un scénario. Et ça, je m'y étais refusé, obstinément, pour ce film-là. Ce qui n'est pas le cas pour le prochain.
C'est-à-dire pour rester le plus proche possible du réel.
Parce que j'avais une autre expérience à faire que celle du premier,
ouais.
Et que je ne pense pas que je pouvais passer à un film complètement écrit, il y avait des acteurs, si je n'étais pas passé par l'expérience du deuxième.
Et maintenant, tu peux passer directement à la fiction avec acteur ?
Maintenant, le prochain sur lequel je suis en train de travailler, ce sera une fiction très élaborée, très écrite, très travaillée, maturée, pour justement en faire un film de fiction totale. Et l'acteur, je l'ai choisi, je l'ai rencontré, c'est Serge Avedikian. Donc même en avançant doucement vers la fiction, déjà, je cherche un mode de travail quand même autrement, différent. C'est-à-dire que même là où on est à l'écriture, déjà je rencontre l'acteur que je pressens, que j'aime, que je rencontre, que je discute, que je lui fais lire la première partie, que ceci, que cela, et que j'espère arriver au bout et que ce soit bien Serge Avedikian et pas quelqu'un d'autre.
Une dernière question, Renaud Victoire. Bon, il est bien évident que, d'ailleurs, question qui nous amène à la fin de notre émission, puisqu'il nous reste 5 minutes et que nous avons à parler aussi des autres films. encore qu'il y ait une espèce de parti pris chez nous de parler de « Et tu m'entends qui ne passe qu'au marais » alors que « The Shining » passe... Bon, bien évident, non, nous reparlerons de Shining éventuellement. C'est pas du tout que nous ayons quelque chose contre le Shining, mais justement, ça m'amène à ma question, qui est, on se trouve devant les 600 000 entrées en 4 semaines du dernier métro. On se trouve devant les 50 000 entrées en première semaine de Godard, ce qui, d'après le film français lui-même, est un énorme succès. C'est-à-dire, on se trouve devant un retour délibéré et une avancée délibérée vers la narration, enfin, comme disait Godard l'autre jour dans notre émission, et de la part de Truffaut, c'est encore plus évident, puisque le dernier métro est finalement l'histoire la mieux racontée possible actuellement aujourd'hui, qui fait que on sent bien que « Et tu m'entends » est en porte-à-faux par rapport à ce qui est soit une mode, soit un mouvement, peu importe. On est à la fois tous les jouets de la mode et les instruments de la postérité, donc je ne veux pas essayer de savoir ce qui est de l'ordre de la mode et ce qui est de l'ordre du mouvement réel de l'histoire. Mais je suis sûr que « Et tu m'entends » même par nous, Pierre Donadieu et moi, aurait été infiniment plus pris en considération en 76-77, à l'époque où j'apparaissais, moi, par rapport à Pierre Donadieu et Caroline Champetier, comme très en retrait sur le plan politique, par rapport à eux, qui défendaient un cinéma social, politique, très engagé, et pas seulement très engagé sur le plan des contenus, mais également sur le plan des mises en œuvre. C'était la grande époque où Chantal Akerman vissait sa caméra. Bon. Il est bien évident que les choses se sont complètement dénouées, assouplies, qu'il y a un mouvement, pas forcément vers le public, qui est un mouvement des cinéastes vers eux-mêmes, c'est-à-dire vers une part en eux qui leur fait faire, sauf qu'il peut la vie, et toucher les gens, et donner en tout cas envie aux gens de voir ce film, ou Le Dernier Métro, ou Loulou, hein, d'une autre façon. Bon. Moi, je voudrais savoir, dans ton cas, Renaud Victor, si toi-même, tu as senti en toi, tu dis, ce mouvement vers la fiction, c'est pas le mouvement d'un jeune cinéaste disant, je vais pas avoir des difficultés avec les acteurs, c'est pas ça.
Non.
Non. Mais ce mouvement vers la fiction, tu le sens comment? Est-ce que tu le sens? Je parle pour ton troisième film, hein, pour ta troisième expérience. Est-ce que, pour toi, ça correspond à une rupture avec les deux précédents, ou bien, parce que les temps ont changé?
Non. C'est ni une rupture, ni parce que les temps ont changé. Vous parlez de Piala. Vous parlez de Godard, vous parlez de Truffaut, tous des gens qui viennent de la nouvelle vague. Il a fallu qu'eux-mêmes fassent des films et donc fassent leur propre apprentissage. Et qui progressivement donc ont développé une certaine manière de faire des films. Nous aujourd'hui, le cinéma, je ne sais pas s'il y a du jeune cinéma, il y a des cinéastes qui sont un peu plus jeunes que les autres et qui ont besoin de faire des films pour savoir quel film ils doivent faire. Donc il faut qu'on fasse un film, un deuxième film, pour réfléchir progressivement sur le cinéma. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait l'expérience du deuxième, j'aurais fait évidemment un film de fiction avec des acteurs, mais dont je crois que je n'aurais pas eu le poids ou la maîtrise pour faire le film que je pense qu'il aurait dû falloir faire. Alors que je pense qu'avec l'expérience du premier, l'expérience du deuxième, où j'ai pu complètement finalement apprendre à vérifier ce que c'est qu'un acteur, une caméra, du temps, pas de temps, fait que je pense que pour le troisième, je serai plus à même de faire le film qu'il me convient de faire et qui soit chargé finalement de l'expérience des deux.
Merci Renaud Victor. Bon, il nous reste peu de temps pour faire notre revue hebdomadaire du cinéma tel qu'il se présente sur les écrans. Alors bon, il est évident que, et tu m'entends, étant l'objet de notre émission, nous conseillons très vivement aux spectateurs parisiens, au moins, c'est eux qui peuvent le voir, d'aller le voir au Marais. Il est bien évident aussi, voir Le Dernier Métro, ne pas oublier Loulou, qui a été le premier à sortir, et qui, ma foi, lui aussi, a eu un assez bon succès populaire. Oui. Sauf qu'il peut la vie, et pour nous, qui défendons Godard depuis toujours, très important, parce qu'après tout, le fait qu'il refasse les chiffres de À bout de souffle est très important, parce que ça lui permettra sans doute d'enchaîner et d'en faire d'autres de films. C'est quand même très très important. Je ne peux pas ne pas penser. Bon, je voudrais rendre ici aussi modestement et aussi simplement que possible hommage à Jean-François Adam, qui était en face de moi il y a quelques mois pour présenter son film. Et sa mort a quelque chose d'exemplaire. Je veux dire que le suicide d'un cinéaste est quelque chose pour ceux qui vivent près des cinéastes, quelque chose qui n'a rien de surprenant. on m'annoncerait au téléphone le suicide d'un certain nombre de noms que j'ai en tête et que je ne veux pas dire ici, je ne serais pas du tout surpris. C'est-à-dire que c'est pour ça que ces 50 000 entrées pour « Sauf qui peut la vie » sont peut-être, d'une certaine façon, des éléments de survie, en tout cas, certainement, pour la carrière, comme on dit, de Jean-Luc Godard. Et ce n'est pas Renaud Victor qui me démentira. Je veux dire que
non, pas du tout. Je pense que moi, j'étais très, très content qu'il fasse 50 000 entrées la première semaine. Et j'espère même qu'il pourra faire un film, je crois, qu'il souhaite vraiment faire, c'est-à-dire un film sur le cinéma, mais qui ne soit pas de la littérature, c'est-à-dire qui nous parle du cinéma avec des sons et des images. Et ça, j'espère qu'il trouvera vraiment les producteurs pour le faire.
Moi, je voudrais dire un mot, enfin, d'un autre de nos amis cinéastes qui est mort il y a quelques semaines, qui est Louis Daquin, pour qui j'avais un très très grand respect, qui a été mon professeur à l'IDEC.
Et on ne sort pas du sujet, là.
Oui, vraiment. Louis Daquin était devant ce micro, lui aussi, au mois de juillet, si je me souviens bien, pour nous parler de son dernier livre qui s'appelle « On ne tait pas ses silences ». Louis Daquin vient de mourir. C'est pour moi, en tout cas, une perte cruelle. Je crois que c'était quelqu'un de très important dans l'histoire du cinéma français, qu'on a jamais très très bien mis à sa bonne place. Et on a justement l'occasion de revoir cette semaine pratiquement tous ces films qui passent à Paris au Studio 43. On peut voir « Nous les gosses »,« Le point du jour »,« Madame et le mort »,« Les frères Bouguincan », »,« Les frères Bouguincan » qui sont le film, plus beau film anticlérical qu'on ait jamais fait, « Premier de cordée »,« Maître après Dieu » et « Les chardons du Barragan ». Il n'y a malheureusement pas « Bel ami » qui est un film que j'aime particulièrement, mais tout de même, revoir ces 6 ou 7 films de Louis Daquin, c'est important, et si on ne les a pas vus, il faut aller les voir, et si on les a vus, il faut aller les revoir pour voir quel cinéaste était véritablement Louis Daquin, et combien il va nous manquer.